C'est... C'est vertigineux, hein, de cet art. Avec toutes les paroles déjà entendues, tu te dis, je suis où, moi, dans tout ça. Et en même temps, il y a des paroles qui résonnent de ce que j'ai entendu, tu vois, chez chacun. Alors, je ne sais pas si j'attends. Ah ben, c'est... Je vais essayer d'être efficace, ça se peut efficace, et vrai et authentique. Alors, je vais déjà rebondir sur des petites choses entendues. Par exemple, plusieurs d'entre vous ont parlé de lecture à l'école. Et moi, j'adorais quand la maîtresse disait « Ginette, vous voulez bien lire ?» Et j'adorais. Donc déjà, j'avais ce goût des mots, de la voix. Quoi. Ensuite, certains ont parlé de religion. Alors moi, bretonne, forcément, j'ai été élevée dans la religion. Et je n'ai que des bons souvenirs, même si je suis, comme François Ruffin, chrétienne athée. Mais je n'ai que des beaux souvenirs parce que c'était une communauté. Et puis on se retrouvait tous les dimanches. Il y avait du social, il y avait de l'humain, il y avait de la communication. Et j'ai par exemple des très bons souvenirs de sortir de confesse. Parce que j'avais dit mes péchés et j'avais l'impression d'avoir des ailes dans le dos, quoi. Bon, donc c'est des bons souvenirs. Quand je revenais de l'école, j'avais une petite sœur qui avait presque 6 ans de moins que moi. Donc je revenais de l'école, elle était en train de jouer dans la rue, on habitait à Rennes, et je lui racontais Jésus, tout ça, quoi. Tout ce que j'avais entendu à l'école. Je lui racontais ça à tel point que j'ai réussi à convaincre ma petite sœur qui n'avait peut-être que 4 ou 5 ans, je l'ai convaincue d'envoyer son nounours en Afrique pour être gentille, pour être charitable. Elle ne m'en a pas voulu, puisque après, elle a adopté un enfant africain. Donc, c'était bien ce nounours. Bon, alors je vais juste maintenant partir sur le conte. J'ai commencé à lire des contes à Radio Pays de Vilaine, c'était la période des radios libres, en 83-84. Je lisais des contes de Bayard dans une émission qu'on avait créée avec un Redonnet qui s'appelait « Dis-moi quelque chose ». C'est une émission d'une demi-heure et dedans il y avait environ 10 minutes où je trouvais un conte qui rejoignait le thème abordé, je le lisais. Et puis un jour, un copain, Paul Maisonneuve, que tu connais, m'a dit, mais il faudrait les dire, les contes. Et à cette époque, comme par hasard, c'est encore la magie de la vie, moi j'étais institutrice avec des enfants autistes et psychotiques, et ça venait de Bonneuil, si certains connaissent, Maud Manoni, tout ça, mais bon. Et on m'a demandé de m'occuper d'un atelier de contes, puisqu'on savait que je lisais des contes à la radio. Et donc, j'ai commencé, et je suis allée voir Bruno, un stage avec Bruno de la Salle. C'est le seul stage que j'ai fait de contes. Et hop, je m'y suis mise à compter. C'était en 85. Donc, je lisais avant à la radio. Hop, en 85. J'étais conteuse à l'école, mais comme ça se sait vite dans les petites villes, on m'a demandé de raconter à la bibliothèque. Alors là, j'oralisais le conte sur un cahier, donc je changeais de conte chaque semaine, et quand je comptais assise, je mettais mon cahier sous mes fesses. Comme si ça me... La mémoire, elle allait marcher. C'était un rituel. pour bien me rappeler du conte que j'avais donc réécrit à l'oral, mais je changeais quasiment pas la version, et je ne cherchais absolument pas d'autre version. Je trouvais un conte, ouais, d'accord, je l'écrivais. Et je le racontais. Et je me régalais beaucoup avec les enfants psychotiques. Je ne vais pas faire trop long, mais c'était un petit atelier. Je disais un conte, le psychiatre la semaine d'après disait un conte, et un éducateur la semaine d'après, donc une fois toutes les trois semaines, donc c'est pas toutes les semaines, une fois toutes les trois semaines, je trouvais un conte que je mettais à l'oral et que je racontais à la bibliothèque de Redon, parce que ça se sait vite, et à l'école de ma fille qui à l'époque avait 5 ans, quoi. C'est vraiment comme ça que j'ai commencé. Et en 86, je me suis retrouvée, grâce au fait d'avoir fait un stage avec Bruno, à
Vendôme.
C'était à Chartres. Eh bien, je suis venue en 1986 à Chevilly-Larue. Et je me suis présentée au concours de contes. Et c'est là que nous nous sommes rencontrés avec Pépito. Pépito est allé en finale. Moi, j'ai raconté un conte que j'adore toujours qui s'appelle le Genévrier. Et là, je vais me vanter un petit peu, mais ça a été le déclic parce que c'est Yannick Jolin qui était dans le jury et il m'a dit « Tant les tripes pour compter ». Voilà, et donc, ça m'a beaucoup touchée parce que c'était quand même, il était déjà connu, Yannick, quoi. Bon, et ben voilà, je suis rentrée dans le milieu du conte et... comme Pépito était déjà professionnel, en quelque sorte, même si tu venais du théâtre, eh bien, on s'est trouvés tous les deux à des festivals. Mais moi, quand je voyais Pépito courir partout, à droite, à gauche, je disais, non, 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 moi, je veux compter tous les jours aux mêmes enfants. Je n'avais pas encore la notion de faire des spectacles, donc... Je racontais à l'école de ma fille, à la bibliothèque et à mon école avec des autistes et des psychotiques. Voilà, c'est comme ça que j'ai. Donc, fallait changer de conte très très souvent, quoi. Et ça m'a permis de lire plein de contes pour trouver celui qui me plaisait. Donc, voilà, c'est comme ça que ça a démarré. Mais du coup, je t'accompagnais souvent et je me suis rendu compte, mais que j'adorais ça. J'adorais raconter un conte. Et le premier conte que j'ai raconté, c'est au mariage de mon cousin Thierry. D'habitude, je chantais au mariage, ou bien je racontais des blagues, plus ou moins fines. Et là, comme c'était en 87, puisque tu es venu aussi, mon cousin s'est marié, je me suis dit, plutôt que de chanter une chanson, je vais faire une histoire. Et c'est à ce moment-là que j'ai pigé qu'est-ce que... Mais je l'ai fait pour ma famille, mais je me suis approprié la version du mari maladroit. Et j'ai mis les membres de ma famille dedans. Donc il y avait les parents du marié, enfin, etc.
Au mariage.
Et c'est là que je ne m'en suis pas rendu compte qu'il se passait quelque chose en moi. Mais c'est comme ça qu'après, ben, j'ai travaillé. Je me suis approprié les contes tout le temps, quoi. Donc voilà, après, ben, je suis devenue conteuse professionnelle, alors à mi-temps en 90. Et puis après, en 92, ben, intermittente du spectacle. Mais j'étais dans le milieu du conte en 83, quoi, avec la radio, et puis après... qu'est-ce que je vais vous dire de mon amour du conte? Parce que c'est ça. Le fait aussi d'avoir fait ma recherche sur le conte en 2010, Voilà, j'ai compté intermittente jusqu'en 2010 et j'ai voulu m'arrêter parce que il y a eu un déclic quand j'ai fait un spectacle sur la mort. Mais il ne faut pas que je parle trop parce que tout ça, c'est dans mon livre. Donc c'est peut-être pas la peine. Je vais juste dire les déclics, quoi. Donc Guenouvry, c'est un déclic, puisque ça m'a amené au compte. Enfin, Guenouvry avec les enfants autistes et psychotiques, c'est un déclic. C'est drôle la vie, c'est un déclic parce que c'est la première fois que j'avais. Donc je faisais des spectacles depuis 90. Oui, 1990. Mais je racontais depuis 84. Et quand j'ai fait C'est drôle la vie, je n'ai pas pris un conte que je mettais à ma sauce. J'ai vraiment écrit quelque chose autour de la mort, quoi. C'était pas pareil, dire que je puisais dans tout, pas seulement un conte, je le mets à ma sauce, je l'adapte pour qu'il soit ma parole. Mais il y a eu vraiment un changement pour moi à ce moment-là. Comment je pourrais vous dire ça? Je sais pas comment, je vais pas parler trop longtemps.
En image? Une image pour parler du changement.
Comment je pourrais dire? C'est-à-dire qu'avant, je prenais un conte qui me bottait et je l'oralisais. Parce que souvent, ils sont écrits, et puis ils sont écrits très mal, très souvent. Donc, je faisais ça. Et à partir du spectacle « C'est drôle la vie », eh bien, j'ai vraiment fait ma parole, mais avec un besoin absolu de la parole symbolique. Parce que c'est ça qui me touche le plus dans les contes, c'est ce rapport à la parole symbolique. Alors, je ne vais pas trop baratiner. Conclure. Pour moi, donc j'ai fait ma recherche sur la parole symbolique. Vous voyez ce que c'est la parole symbolique? C'est passer par l'imaginaire. C'est passer par... c'est ça que je défends aujourd'hui, c'est l'importance de la parole symbolique pour dire les choses de la vie. C'est pas perché, c'est notre vie de passer par la parole symbolique. Même si les créations du monde ont été inventées parce qu'on n'avait pas encore les sciences et on a imaginé pour pouvoir parler de la vie, je trouve qu'on a un besoin essentiel de passer par la parole symbolique parce que cette parole est profondément humaine et elle cohabite, c'est un peu ce que je fais avec le manger pour cœur. Elle cohabite, elle est humaine, profondément humaine, et on a besoin de cette parole en plus des sciences, en plus du journalisme, etc. Voilà, donc je ne sais pas trop comment finir, là je m'emmène un peu les pinceaux. Pépito qui me connaît, il va peut-être pouvoir me.
T'es intéressé par les rêves, d'une manière générale?
C'est parce que les rêves font partie de la parole symbolique, mais la religion utilise la parole symbolique et les contes, c'est cette part de nous qui ne peut pas être dans le matérialisme, le logique, et c'est une part profondément humaine. On a besoin de cette parole. On ne peut pas tout dire avec le réalisme, avec le réel. On est humain, on a besoin de cette parole pour communiquer et pour dire le fond, pour dire le vrai. On a besoin de cette parole que sont les contes. On est humain, on est humain, on a besoin de cette parole. Sinon, on n'est que des matérialistes. Or, être humain, ce n'est pas être matérialiste, parce que on ne peut pas tout dire avec le rationnel. C'est pas possible. Donc voilà, c'est pas comment conclure.
C'est bien dit.
Ouais, ouais.
C'est bien dit.
Voilà,
t'as un grand amour des contes.
Je ne peux pas vivre sans cette parole qui est la parole symbolique, parce que je suis humaine. Et donc, tout ne peut pas se dire avec le rationnel. Nous sommes des humains. Et on a besoin d'une autre parole. Parce qu'on est humain. Je ne sais pas comment...
Yem.
Je me suis mélangé un peu les pinceaux. Hein.
Yem.
Alors, bon petit Yem.
Alors, la petite Yem, ou bien
Le Yem, pour l'instant, je n'arrivais pas à comprendre ce que c'était. Yem, je ne le comprenais pas. Et moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, dans ma vie, dans... c'est... Attends, je suis un peu perdue, là. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est d'oser accepter sa fragilité. Je trouve qu'on est dans une société où c'est toujours le plus. C'est être le plus fort, c'est être le plus riche, c'est être le plus beau, c'est être le plus... C'est toujours ça. Alors que les contes, c'est toujours le plus petit, le plus faible, le plus moche, etc. Et c'est ça qui me touche profondément dans les contes. Et pour moi, le Yem, il est profondément humain. Et donc, il est fragile. Et c'est un peu où j'en suis de ma recherche autour du conte aujourd'hui. C'est accepter la fragilité. Et les contes parlent énormément de ça. Et moi, c'est la recherche qui me mène aujourd'hui, c'est de voir comment... Parce qu'elle est toujours gommée, la fragilité. Il faut être le plus riche, le plus beau, etc., ce que je viens de dire, quoi. Et les contes, mais qui viennent du fond des âges, eux, ils sont capables de parler de cette fragilité. Et c'est mon petit moteur aujourd'hui. C'est mon petit moteur. Donc le Yem, pour moi, peut-être que... c'est, ben, je vais juste vous résumer un conte. Et puis on finira là-dessus. Okay. Mais avec qui j'étais hier, on en a parlé dans le groupe. Avec Armel, Bepo et toi. Voilà, la recherche qui m'intéresse aujourd'hui, elle ressemble à ce conte-là, et il y a beaucoup de contes où justement on parle de la fragilité. C'est l'inverse de la société matérialiste. Et le conte qu'on a abordé hier, dans notre petit groupe, là, eh bien, vous le connaissez, c'est... un jeune homme qui est un peu parfait, hein, et qui ne se base que sur la religion, et il adore la lune. Voilà, il adore la lune. Et un jour, donc, il est parfait, quoi. Il est profondément religieux. Et un jour, il s'endort, et il y a une espèce de rayon de lune qui descend. Et lui, il grimpe jusqu'à la lune. Et au moment, parce qu'il adore la lune, voilà, il adore la religion, il adore la lune. Et au moment où il arrive sur la lune, il entend un enfant pleurer. Et donc, ça le déséquilibre. Il dit, mais qui est-ce qui pleure? Il n'y a personne pour s'occuper de cet enfant. Et il retombe par terre, il se réveille. Il est complètement perdu. Et il y a un oiseau dans un arbre qui le voit et qui lui dit, mais Donc il retombe par terre, il est complètement paumé, et l'oiseau lui dit, mais tu as entendu ce que te disait, ce que je te disais, c'est, excusez-moi, je suis complètement...
Par rapport à lui-même, quoi.
Par rapport à lui-même, donc il y a un oiseau qui lui dit, mais tu as entendu, c'est toi qui... excusez-moi, je suis vraiment perdue, je ne sais pas ce qui se passe.
C'est l'émotion.
Mais non, mais c'est un conte que je trouve extraordinaire,
c'est
parce que...
C'est toi-même.
Oui, tu ne t'es pas entendu, c'est toi qui pleurais. Et... Mais je sais plus, je suis désolée.
Il y avait l'histoire de lait. Tu
c'est le rayon de lune. C'est le rayon de lune. Et donc le jeune homme, l'oiseau lui dit ça, tu ne t'es pas entendu, c'est toi qui pleurais. Et donc il disait, ce sont ses larmes d'enfant, quoi. Et à partir de ce moment-là, il s'occupe plus de ses études et de son mysticisme, parce qu'il était profondément religieux. Et il regarde la lune, parce qu'il adore aussi la lune, et il lui dit... toi, la lune, tu es parfaite, tu es belle, mais tu ne connaîtras jamais le goût du lait. Mmh. Et donc, à partir de ce moment-là, ben, il marche, il vit sa vie d'humain, il n'est plus perché. Excusez-moi, je suis complètement...
Ça veut dire qu'il ne faut pas oublier son enfance,
la fragilité d'enfance,
que tu avais besoin de... c'est-à-dire que... Tu ne peux pas tout de suite accéder à ta fragilité, parce que quand tu te construis, tu es bien obligé de trouver de la force. Quoi que tu aies vécu, tu trouves de la force, tu es obligé pour vivre. Et puis, la fragilité peut revenir, et à ce moment-là, c'est à toi de faire le chemin pour être vrai, mais y compris avec ta fragilité. Je suis complètement...
Il y a le très beau livre de Robert Blum, L'enfant et l'homme sauvage.
Et voilà, plein de contes comme ça.
C'est mon livre de chevet, c'est vraiment L'enfant et l'homme sauvage, donc c'est au seuil. C'est basé sur Jean de Fer.
Mais oui.
Et il y a ça, il dit une chose magnifique, il dit, quand vous passez de l'autre côté, il y a une sorcière qui vous demande où sont vos cicatrices.
C'est exact, ben, tu vois.
Et il passe que si on a.
Voilà, et il y a plein de contes comme ça, qui parlent de la fragilité.
Je vais travailler ce conte.
Vous verriez bien, il est annoté.
Et du coup, c'est ça qui me mène aujourd'hui, ma recherche d'aujourd'hui en tant que conteuse, c'est vraiment ça, quoi. Tous ces contes, et il y en a plein qui parlent de la fragilité humaine. Le héros, il est petit, il est moche, c'est toujours le petit, quoi. Et je trouve ça d'un enseignement formidable, quoi. Donc, je ne me lasse jamais des contes. C'est ma deuxième langue, quoi. C'est mon espéranto. Je suis désolée, je me suis un peu mélangé les pédales.
Non, c'était compréhensible tout ce que tu as dit.
Quand on est là-bas, on s'embrouille tous, hein. On commence et puis on dit plus pur que plus on rattrape, plus...
Et donc, Yem, pour moi, c'est sûr, il aura sûrement une fêlure. Oui. Pour moi, Yem aura une fêlure et je verrai ce que j'en ferai. Mm-hmm. Mais c'est évident qu'il aura une fêlure. Mm-hmm. Voilà. Mm-hmm. Je suis désolée.
Non, sois pas désolée, merci pour
mélanger les pibes.
Merci. C'est moi qui suis désolée de te mettre, de nous mettre dans des situations où on a l'habitude de prendre la parole en public, mais finalement, on se rend compte quand on parle chacun de soi, c'est un autre exercice, quoi. C'est aussi un autre exercice auquel on n'est pas forcément toujours très, de toute façon, habitué de le faire, et merci de vous y prêter.
Par contre, moi, je sais que je ne peux pas vivre sans cette langue, qui est la langue des contes. C'est impossible. Je ne peux pas vivre sans. Parce que je ne peux pas exprimer des choses qu'avec le rationnel. On ne peut pas. C'est extraordinaire et c'est tellement humain, profondément humain. Donc c'est pour ça que j'adore. Sur scène ou en dehors de la scène. Donc voilà.
Merci Gigi.
Merci beaucoup. Merci beaucoup.